Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avant d'entendre vos conseils jardinage, d'abord un point sur cette forêt tropicale qui a été découverte au pôle Nord.
Et oui, une petite chronique pour faire plaisir à Ségolène Royal. Il a bien été découvert une forêt tropicale au pôle Nord, mais il faut bien sûr avant tout donner quelques explications. En 2015, des chercheurs de l'université de Cardiff au Royaume-Uni précisent avoir trouvé les restes d'une forêt sous les glaces qui couvre le Svalbard, un archipel norvégien. Chris Berry, qui dirige l'opération, indique dans la revue scientifique Géologie, je le cite, « Ces forêts fossiles nous montrent à quoi ressemblait la végétation et les paysages dans la région de l'Équateur il y a 380 millions d'années, alors que les premiers arbres commençaient à apparaître sur Terre. »
Une forêt tropicale au pôle Nord, en fait, c'est où précisément? Parce qu'on ne sait pas très bien.
Vous avez raison d'être perplexe, d'autant que ces deux régions sont distantes de près de 10 000 km. Ce n'est pas rien. Il est donc nécessaire, pour bien comprendre l'importance de cette découverte, de se souvenir qu'il y a une éternité, les continents se sont séparés puis ont dérivé, et cette forêt, alors située près de l'équateur, s'est déplacée jusqu'au Grand Nord. Cela a pris du temps, bien sûr, plusieurs millions d'années.
Et puis le froid est arrivé.
C'est exact. Les scientifiques pensent que la réduction dans l'atmosphère du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, est la cause du refroidissement qu'a connu la Terre à la fin du Dévonien. Une période qui s'étendrait, j'emploie le conditionnel, je ne suis pas un spécialiste, de moins 418 millions d'années à moins 359 millions. Le froid, eh oui, c'est quand même quelque chose. Le froid fut alors si intense que les arbres n'ont pas résisté. Leurs parties aériennes se sont ensuite dégradées avec les années et pendant ce temps, la glace augmentait son volume pour les recouvrir en totalité. 380 millions d'années plus tard, c'est inouï, il a retrouvé les restes fossiles de cette forêt. Alors s'il est bien difficile aujourd'hui d'étudier la ramure et les feuilles, les racines, elles, sont en bon état de conservation et leur examen vont permettre à mieux comprendre à quoi ressemblait la vie sur Terre avant l'extinction massive qui a tout de même détruit 70% des espèces vivantes sur les continents.
Et ces premiers arbres au pôle Nord antique, à quoi ressemblait-il?
Alors, pour simplifier mieux, pour caricaturer, à un mélange de palmiers et de conifères, ils se reproduisaient comme des fougères, non pas avec des graines, mais avec des spores.
Merci pour ces précisions, quelle belle découverte, forêt tropicale au pôle Nord. Vos conseils jardinage à présent. Monique vous demande, mon cher Alain Baraton, y a-t-il un moyen de se débarrasser des otiorhinques qui dévorent mes photinias sur une terrasse? J'ai essayé plusieurs produits à pulvériser, mais sans succès.
Alors autant je conçois que l'otiorhinque, une bestiole dont le nom est assez simple à prononcer, beaucoup plus difficile à écrire, eh bien se déplace en toute tranquillité. Dans le jardin, c'est un problème, je dois reconnaître, pour lutter contre cette bestiole. Sur le balcon, beaucoup plus simple. Vous avez des photinias, ils vivent donc dans des bacs forcément sur un balcon, et puis le matin, vous découvrez que les feuilles ont été découpées, mais attention, de manière artistique, c'est à ça qu'on reconnaît l'otiorhinque, il est capable de transformer une feuille en une véritable dentelle. Mais vous avez beau regarder, rien de rien, vous ne voyez jamais cette bestiole qui atteint pourtant 1 à 2 cm de hauteur, de longueur. C'est quand même pas rien. Alors il y a un petit truc pour s'en débarrasser, c'est le soir. Une fois, avant d'aller vous coucher, à la nuit tombée, eh bien vous allez sur votre balcon avec une lampe électrique. Eh bien on les voit, parce que ces bestioles sortent la nuit. Mais attention, elles sont, j'allais dire, prudentes. Et sitôt un homme est dans leur vision, qu'elles se laissent tomber sur la terre et qu'elles font la morte. Eh bien oui, c'est assez drôle. Donc il faut y aller à la lampe électrique délicatement. On regarde bien au-dessus et au-dessous du feuillage. On prend une petite boîte, on prend les petites bestioles que l'on met dans la boîte, on descend au pied de la résidence, on les met sur la pelouse. Au moins, les oiseaux en profiteront le lendemain.
Opération commando nocturne.
Tout à fait.
Contre l'otiorhinque. Claude voudrait faire germer une châtaigne achetée dans le commerce. Elle souhaiterait savoir si ce fruit est un cultivar, s'il germe, si les futures châtaignes seront de la même grosseur et pourvues des mêmes qualités gustatives.
Et ne faut pas rêver, parce que là on va parler de code génétique, on pourrait mettre en avant les gènes dits récessifs, etc. Je veux dire par là que les plantes...
Et loin d'elles.
Voilà, tout à fait. Ces plantes, ces châtaigniers qui ont donné naissance à des fruits un jour, on parlera d'ailleurs de la différence entre le marron et la châtaigne. Vous ferez remarquer que ce sont des châtaigniers qui produisent les marrons qui vont permettre de faire les marrons glacés. On va en trouver beaucoup pour les fêtes, donc très compliqué. Quelle est donc la vraie différence entre une châtaigne et un marron, sachant qu'on peut manger les deux sauf le fruit du marronnier qui lui n'est pas comestible? Vous avez compris.
Bah vous nous le direz avant Noël, j'espère.
Tout ça est très, être un peu plus clair.
Tout ça est très compliqué. Ouais. Donc, ces arbres fruitiers qui aujourd'hui permettent d'obtenir de belles et grosses châtaignes sont des végétaux greffés. Il est évident que les fruits, lorsqu'ils vont germer, donneront naissance au végétal tel qu'il était il y a longtemps, avant de subir toutes ces manipulations génétiques. Ça sera d'ailleurs amusant de voir à quoi peut ressembler la plante qui va naître d'un fruit travaillé depuis plusieurs dizaines d'années. Donc non, il n'y aura pas la même grosseur, le même goût.
Ce ne sera pas uniforme.
Ce ne sera pas loin de là, mais ça peut être amusant à découvrir.
Mathilde nous fait savoir que cette année encore, ces dahlias ont été envahis de pince-oreilles. Comment peut-elle s'en débarrasser l'an prochain ?
Alors, le pince-oreille ou perce-oreille, je ne sais jamais ce qu'il faut vraiment dire à propos de cette petite bestiole, tient son nom parce qu'il paraîtrait qu'autrefois, les pinces ressemblaient justement à cette pince que l'on employait pour faire les trous dans les oreilles des jeunes filles pour mettre des boucles d'oreilles. Le pot rempli de paille à l'envers sur un tépiquet métallique, le perce-oreille croit que c'est un nid, il va s'y réfugier le lendemain matin. Vous soulevez, vous découvrez et vous mettez chez le voisin.
Un conseil pour le week-end ?
C'est la 22e fête de l'arbre et des fruits d'antan du conservatoire régional. C'est aujourd'hui et demain, c'est du côté d'Agen, c'est à Montesquieu. C'est toujours merveilleux, l'occasion également de découvrir une grande exposition de fruitiers anciens. 500 fruitiers anciens seront présents.
Ne le laissez pas dire, Éric Delvaux. Il raconte qu'il faut mettre toutes ces cochonneries chez le voisin.
Oui, parce que je n'aime pas les voisins.
Bon, vous réglerez ça chez vous. Alain Baraton, merci beaucoup.